Le Chaud Devant, l'émission culinaire plutôt épicée, présentée par Gilles. Des recettes, des tours de main, des conseils de chef, mais aussi des témoignages et des chroniques, bien sûr de la musique. Chaud Devant, c'est sur REC 103.7 le mercredi de 11h à 11h30 et c'est animé par Gilles.
Eh bien, bonjour, avec beaucoup de retard aujourd'hui, effectivement, l'informatique est un gros problème pour moi. Eh oui, on ne rajeunit pas, que voulez-vous? Alors, j'avais quelque chose, quelques trucs à vous dire, trois fois rien en fait, sur le 103.7, l'émission Chaud Devant évidemment, et on va parler de l'esthétique pour sublimer le goût en cuisine. L'esthétique pour sublimer le goût, comme on dit dans les milieux autorisés où on s'autorise à penser, figurez-vous. Et des fois, il vaudrait mieux s'abstenir, messieurs, dames. Même que des fois, on s'autorise tout et n'importe quoi. Et il dégoise de page en page dans les guides culinaires. Vous savez, la marque qui laisse des traces de pneus. Il démonte au bulldozer la réputation d'un restaurant en deux temps, trois mouvements. Ça fait des décennies qu'ils sévissent, qu'ils font ou défont une renommée, qu'ils jonglent avec les toques ou les étoiles ou encore qu'ils te baissent ta note. Le 24 février 2003, suicide du chef étoilé Bernard Loiseau à l'âge de 53 ans. Et comme le disait si justement Juliette Proutot à l'époque sur Radio France, je cite, « Un système qui ajoute à la pression des horaires, aux difficultés du métier, au culte de la performance, une guerre des étoiles. » En cause, les guides rouges et jaunes, comme le suggérait à cette époque le grand Paul Bocuse, faut dire quand même qu'il existe des chefs cuistots qui méritent des baffes quand même, mais si. J'ai mangé dans de vrais torboyaux en 40 ans, notamment un sur la côte basque. Jamais je n'avais mangé, et Dieu m'en avait préservé jusqu'alors, des moules marinières aussi dégueulasses. Oui, le mot est fort. Oui, c'est vrai, l'adjectif est implacable, mais tellement à la hauteur de ce que j'avais dans mon assiette. Dans ce jus de moule, comment vous dire sans être grossier, il sentait la vase et avait une couleur d'eux-mêmes. Non, je n'exagère pas, point d'échalotes dans cette mixture, encore moins de persil frais, pourtant c'était l'été. Pas le moindre millilitre de vin blanc, pas plus de beurre que de poivre, il n'était même pas salé. Un comble pour un jus de moule. Attention restaurateur, quand vous annoncez moule marinière sur votre carte, vous devez vous référer à la recette initiale, c'est une obligation. Ou alors, vous les appelez moule du chef, ou alors ralamoule, comme vous voulez. Je pense maintenant, avec le recul, qu'ils avaient dû ouvrir les bivalves à l'eau de vaisselle. Pour ne rien arranger, la serveuse a renversé la moitié du fameux jus de moule en plein sur mon short d'estivant. Vous voyez bien que rien ne m'a été épargné. On a mangé trois moules et on a demandé l'addition. Et on s'est cassé. Je sais, j'aurais pu faire un scandale dans ce boui-boui innommable, cette attrape touriste. Faut pas avoir beaucoup d'amour-propre pour cuisiner une telle tambouille et être complètement dépourvu de sens moral. C'est de l'inconscience professionnelle. Et les chaises pour s'asseoir? Tout de suite, vous pouvez vous asseoir, mais vous pouvez rester debout. Avec Daran et les chaises.
Tableau noir.
Et pour suivre la rubrique « Que mangeions-nous autrefois ?» en Poitou. Aujourd'hui, les repas de batterie. Les repas de batterie. Pourquoi parler des repas des batteries, c'est-à-dire des jours de battage de grains ? Parce qu'il s'agit encore de repas extraordinaires, mais bien différents des repas de noces ou des autres fêtes familiales. Dans le calendrier paysan, l'époque des battages est à la fois un moment de travaux pénibles et de grandes réjouissances pour la communauté des villageois. Une rude journée de travail. La journée de battage commence peu après le lever du soleil, dès que la rosée a disparu, et se termine à la nuit. Et les jours sont longs. Au mois de juillet, on travaille 14 ou 15 heures dans la journée. Bien sûr, il y a des temps de repos, mais très courts, parce qu'il ne faut pas que la machine s'arrête. On travaille dans la chaleur écrasante, dans la poussière épaisse, dans le bruit des machines. Travail dangereux pour ceux qui enfournent le blé. La machine ne pardonne pas les distractions. Travail pénible pour ceux qui déposent les gerbes sur la batteuse, ceux qui façonnent le paillet. Travail plus harassant encore pour ceux qui doivent monter de lourds sacs de grains dans le grenier. Cette tâche est d'ailleurs réservée aux jeunes. Il n'est pas surprenant que, pour compenser cette débauche de sueur et d'énergie, on ait faim et soif. Enfants et jeunes filles sont chargés de porter à boire et vont de l'un à l'autre, le litre et le verre à la main. Un fait social autour de la machine à battre s'affaire donc une main-d'œuvre nombreuse. Il faut bien 30 à 40 personnes. Toutes ne travaillent pas en même temps. Ce sont en fait deux équipes de 15 à 20 travailleurs qui se relaient. Les battages durent une journée dans une petite borderie, 3 à 4 jours au plus dans une grande métairie. L'entraide villageoise joue à plein. À cette occasion, ce sont essentiellement les voisins qui se regroupent pour former des équipes. Parfois, on fait aussi appel à des parents plus éloignés. Et ces équipes se retrouvent finalement de ferme en ferme pendant plusieurs semaines. On peut donc ainsi comparer, et souvent sans bienveillance, la façon dont est reçue d'une maison à l'autre. Chaque fermière un peu glorieuse a donc à cœur de faire aussi bien que sa voisine, et même un peu mieux si c'est possible. Ici, on va servir un apéritif maison, là, ajouter un plat inhabituel au menu. Bref, c'est l'émulation et la surenchère. C'est la réputation qu'il faut garder ou acquérir. Un jour de fête, vraiment. Au soir de la journée de battage ou à la fin du dernier jour, le paysan est heureux. Le grain est là, à l'abri dans le grenier. Il est sûr de manger du pain l'hiver prochain. Depuis les labours de l'automne et les semailles, il a eu tellement d'inquiétude devant les caprices du temps. Mais la récompense de tant de labeur est là, sous ses yeux. Fini les soucis. Aujourd'hui, c'est jour de fête. On va le célébrer par un grand repas en commun. Bien sûr, pendant les battages, il a fallu aussi nourrir les travailleurs. On a tué en quantité des volailles, des lapins, on a sorti des pots de charcuterie et battu des omelettes. On a eu toujours prêtes des platées de haricots verts, dont c'est la pleine saison, et des mogettes blanches. On n'a pas lésiné justement sur les mihés, vous savez le fameux mihé, au vin avec du pain, dans du vin avec du sucre et des glaçons, le café et la goutte. Mais c'était pour des repas rapides et presque ininterrompus. Chaque équipe venait manger à son moment de repos. Ce soir c'est différent, le travail est fini, on a le temps, on va réparer les forces en faisant tranquillement un grand repas qu'on appelle le bourlot. C'est un repas abondant, il en faut de la nourriture pour caler les estomacs de 40 hommes affamés. Mais c'est un repas qui reste plus simple et plus rustique qu'un repas de noces. Il se déroule dans une grange le plus souvent. Les tables sont faites de planches assemblées, posées sur des tréteaux. Les sièges sont des bancs improvisés. Le menu est composé de produits de la ferme. Et malgré les efforts des fermières, il ne varie guère d'une ferme à l'autre. Après la soupe grasse au vermicelle, on sert le bouilli. De la poule, si l'on peut, un morceau de bœuf dans le plat de côte. Et ses légumes suivent une rouelle ou un rôti de porc. Puis les volailles avec une salade bien parfumée à l'ail. Au dessert, des cailles ou caillebottes, des tartes et des galettes. La caillebotte, c'est plus une recette de dessert qu'on retrouve notamment en Vendée. On mange beaucoup, on parle fort, on boit bien aussi. Pour l'occasion, on a acheté du vin de marchand, en général meilleur que le vin de la vigne, et chacun s'en régale sans mesure. Un ancien marchand de vin prétend que dans une bonne journée de batterie, on boit presque une demi-barrique, c'est-à-dire 110 litres. Ça ne fait que 2 ou 3 litres par personne, me direz-vous. Ajoutez à cela les bons coups de gnôle qu'on a pris avec le café, à la fin du repas, surtout à la fin de chaque repas, et vous imaginez la chaude ambiance qui peut régner à la fin de la journée. On chante, on rit très fort, on raconte des histoires caillardes, parfois aussi les discussions dégénèrent en bagarre dans le coin des jeunes, vite calmées en général par le départ des plus excités. C'est que demain ou après-demain, dans une autre ferme, il faudra remettre ça. Ça vous fait pas penser un peu à la fin des albums d'Astérix et Obélix ? Moi, je trouve un peu. On organise souvent de nos jours des fêtes folkloriques de battage à l'ancienne. On remet en marche les machines à vapeur et les batteuses. On refait des gestes de jadis. On termine la journée par un dîner champêtre. Mais on ne retrouve jamais l'esprit de la fête et l'ambiance du bourlot d'autrefois. Ce texte a été donc écrit à quatre mains avec Alain Charpentier, Franck Conti, Philippe Sarrazin et Bruno Servouze.
La 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 la
Chaud Devant, l'émission culinaire sur REC 103.7 le mercredi de 11h à 11h30 et c'est animé par Gilles.
Ce morceau de bravoure était interprété par les Non-Tropos, un vieux groupe des années début 80 qui vous interprétait donc Notre Sœur. Donc il est question maintenant... C'est un peu déstabilisant ce genre de chanson, de chansonnette. Il est donc deux plats emblématiques de la cuisine ancienne de notre région pour fêter Pâques, notamment. Vous savez, c'est le week-end prochain, c'est Pâques. Le chevreau à l'ail vert et le pâté de Pâques. Ce pâté de Pâques peut être consommé chaud ou froid, mais plus souvent, il est préparé le jour du Vendredi Saint et consommé le jour de Pâques. Les recettes diffèrent que vous habitiez Montmorillon, Loudun ou Lusignan. J'ai essayé d'en faire une synthèse. On dit pâté, mais en fait, c'est une tourte à la viande et aux œufs. Ma grand-mère le préparait avec une pâte sucrée. Je me revois enfant le dégustant du bout des dents. Mais je finissais quand même mon assiette pour faire plaisir à ma mamie qui s'était donné tant de mal pour nous rassasier. À l'époque de quand j'étais drôle, tu mangeais tout. Sinon, comme le disait l'expression consacrée, ton père te faisait les gros yeux. J'avais un peu de mal encore aujourd'hui avec l'association d'une pâte sucrée pour une tourte salée. Bon, assez parlé de moi. Donc, pour cette pâte brisée, il vous faut 300 g de farine T65, 100 g de beurre, 50 g de saindoux, 165 ml d'eau, une pincée de sel. La garniture de la fameuse tourte se compose comme suit: de la chair à pâté 200 g, 200 g de porc dans l'épaule ou 200 g de blanc de poulet. C'est selon. Une demi-cuillère à café d'épices Rabelais, une cuillère à soupe de cognac, du persil, un petit bouquet aussi de ciboulette ou 6 à 7 brins d'ail. On dit aussi en patois seb. C'est certainement pourquoi on les appelle aussi cébettes. 4 œufs plus un jaune pour dorer la tourte. À Montmorillon, on rajoute des champignons. Cuire les œufs 7 minutes dans l'eau bouillante, ensuite les plonger et les laisser dans l'eau froide. Pendant ce temps, détailler le morceau d'épaule format lardon. Les faire suer 10 minutes avec le persil, l'ail, salé légèrement, surtout si votre chair à pâté est déjà assaisonnée. Pour le poivre, idem, le tout avec un peu de saindoux. Ensuite, confectionner la pâte brisée, mettre à fondre le beurre et le saindoux à feu très doux. Dans un saladier, ajouter les corps gras, la farine, le sel et l'eau. Pétrissez vigoureusement, puis coupez la pâte en deux. Étalez une première moitié un peu plus large que votre moule à tarte. Foncez votre moule. Déposez sur votre pâte les œufs durs et calés, coupés en deux dans le sens de la longueur. Le côté jaune directement sur la pâte. Rajoutez la chair à pâté entre les œufs, égalisez, puis votre poêlée de gorée ou de poulet. Recouvrir le tout de l'autre moitié de pâte que vous aurez au préalable étalée. Rabattre les bords de pâte, appuyez pour souder. N'oubliez pas de faire un trou dans la pâte du dessus, du diamètre d'une pièce d'un euro, pour y pratiquer et adapter une petite cheminée confectionnée avec vos doigts expertes et surtout un peu de papier cuisson. Et y verser la fameuse cuillerée de cognac. Badigeonner le dessus et les bords avec un jaune d'œuf, délayé avec une cuillère à soupe d'eau, afin de donner une jolie couleur dorée à l'ensemble. Toujours procéder de même pour toutes vos tourtes salées ou sucrées. Elles cuisent plus vite et la vapeur qui s'échappe ne ramollit pas votre pâte. Mettre dans un four pas trop chaud, 170 degrés, pendant 30 minutes. Après, baissez votre feu à 150 et laissez cuire encore pendant au moins 15 minutes. De cette façon, votre pâté de Pâques ne sera pas trop desséché et il sera cuit en profondeur.
Nous a
Chaud Devant, l'émission culinaire sur REC 103.7 le mercredi de 11h à 11h30 et c'est animé par Gilles.
Comme promis, le chevreau à l'ail vert. On trouve rarement une cuisse de chevreau vendue seule, mais surtout la bête vendue par la moitié, avant plus arrière. Découpez donc votre chevreau en quatre, il cuira plus vite. Prévoir un plat de cuisson en conséquence. Après avoir déposé la bête dans son plat, prendre un pinceau de cuisine pour badigeonner le chevreau avec du saindoux fondu. L'assaisonnement accroche mieux, dès l'instant où vous mettez un corps gras sur une viande qui va rôtir. Salé, poivré, mettre dans un four chaud à 175 degrés pendant 30 minutes. Sortir le chevreau au fond du plat, déposer l'ail vert, émincer et le persil haché. Rajouter la viande par-dessus, remettre au four 15 minutes. Déglacer ensuite avec un demi-verre de vinaigre de vin et un verre de vin blanc du Haut-Poitou. Enfourner de nouveau pour 15 minutes. Si le jus de cuisson a beaucoup réduit, n'hésitez pas à rajouter un demi-verre d'eau bouillante tout en grattant à l'aide d'une spatule en bois. Le fond du plat, évidemment, de cuisson. Pour trancher la cuisse de chevreau, c'est facile. Empoignez vigoureusement, fermement, l'os d'une main et de l'autre tranchez de la crosse vers l'extérieur, jamais vers vous, pour éviter de tester les urgences un dimanche de Pâques, après-midi par exemple. De plus, ils sont souvent débordés, forcément. Pour le ramassage des œufs de Pâques avec les enfants ou les petits-enfants, je vous fais confiance, forêt. Pas quand même qu'à cause de votre gourmandise, vous vous fassiez un labago. Eh bien, on va bientôt se quitter, quasiment. On écoute ce Dark Side en attendant. Il est malheureusement temps de vous quitter, malheureusement. On se retrouve de toute façon le mercredi de 11h à 11h30 et le samedi, l'émission est rediffusée de midi à 12h30. Salut et bonne fête de Pâques.
Chaud Devant, l'émission culinaire plutôt épicée présentée par Gilles. Des recettes, des tours de main, des conseils de chef, mais aussi des témoignages et des chroniques. Bien sûr, de la musique. Chaud Devant, c'est sur REC 103.7 le mercredi de 11h à 11h30 et c'est animé par Gilles.